Bien, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Donc, on va peut-être pouvoir commencer la table ronde pour discuter un petit peu avec vous, Bernard Stiegler. Donc, Francis Château-Reyno, Yves Jeanneret, j'appelle à Bruno Bachimon. Et il en manque encore un, Eric Guichard, voilà. Oui, donc merci encore de cette conférence qui est très éclairante quant aux questions qui ont été à l'origine de cet après-midi de travail et d'un travail qu'on mène à de longue haleine avec les participants d'un séminaire qui s'intitule Figure du lettré et technologie numérique, deux points, une chimère contemporaine avec un point d'interrogation, pour vous donner un petit peu le. La façon dont a été énoncé le thème de cet après-midi, le numérique permet-il de réarticuler une culture savante et un savoir profane, eh bien c'était un petit peu, on avait forcé le propos pour opposer justement ces deux mondes, pour tisser un petit peu décliner la métaphore d'une culture profane qui pourrait s'élaborer, qui pourrait se construire par la fréquentation des sites des sites critiques qui se développent sur le net, et puis aussi par le fait qu'on puisse avoir accès à beaucoup d'écrits. Donc cette culture profane qui finalement s'affranchirait des cercles lettrés et de ses codes. Eh bien, on a vu effectivement de façon assez magistrale qu'il s'agit moins d'opposition finalement que de composition, et que l'amateur qui peut être profane, eh bien, est un lettré. Donc je ne vais pas développer plus avant parce que c'était tout à fait passionnant. Des autres enjeux pour nous, un gain de connaissances qui n'est. C'était de poser cette question de la culture profane du point de vue de la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, du point de vue des bibliothèques. Mais je pense qu'on va revenir sur ce thème plus tard, parce que je pense que pour l'instant il est tout à fait intéressant et tout à fait urgent de discuter avec Bernard Stiegler, parce que sa conférence était tout à fait riche. Donc je vais présenter les personnes de la. Donc je vais d'abord donner la parole aux personnes de la table ronde, à les présenter. Puis ensuite, je vous donnerai la parole, parce que sûrement dans la salle, vous avez des questions à poser. Et ensuite, peut-être dans un deuxième temps, pour engager ce débat sur la question de la démocratisation culturelle telle qu'elle se pose dans la bibliothèque. Voilà, donc je commence par ordre alphabétique. Bruno Bachimon, qui est philosophe et informaticien, directeur de recherche à l'Université de technologie de Compiègne et directeur scientifique à l'INA, qui est, comme vous le savez tous, l'Institut de l'audiovisuel. Francis Château-Reyno, qui est sociologue, directeur d'études en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Éric Guichard, qui est maître de conférences à l'ENSIB, qui est responsable de l'équipe Réseau Savoir et Territoire à l'ENS, et Yves Jeanneret, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon. Et puis moi-même, je me présente, je suis Agnès Camus-Viguet, je suis sociologue au service études et recherches de la Bibliothèque publique d'information. Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Yves Jeanneret, qui, je pense, a des questions à poser à Bernard Stiegler.
Merci Agnès. Donc Bernard, je vais réagir par rapport à ce que tu as dit à partir de ma propre approche de l'écriture, qui est différente, c'est-à-dire pas forcément d'ailleurs destinée à, là encore, à s'opposer à la tienne. Ce serait d'ailleurs une question de savoir si elles peuvent composer, comment. Et je partage ton avis sur le texte de Platon. Je trouve qu'il pose des questions absolument essentielles et dont on reconnaît de façon évidente la présence dans le monde contemporain à propos de l'écriture. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et je trouve que dans la lecture que tu en as faite, enfin, ce texte a été beaucoup commenté depuis des années à partir de la lecture qu'en a faite Derrida dans la pharmacie de Platon. Mais dans la lecture que tu as faite, bien sûr, tu es revenu sur le point que soulignait Derrida de cette, disons, métaphysique de la présence, c'est-à-dire cette idée qu'on perdrait quelque chose quand on extériorise la pensée. Mais tu as mis l'accent sur deux autres aspects qui me paraissent essentiels dans ce texte. D'abord, la référence au dialogue, qui est un élément tout à fait fait essentiel. Et d'autre part, cette question que tu as posée à la fin de la critique. Et je rappelle, en fait, que dans le texte de Platon, alors je ne savais pas que tu allais en parler, donc je vais le citer de mémoire, hein, mais je rappelle, parce que je vais partir de ce texte de Platon pour ma réaction, que dans ce texte de Platon, ces deux thématiques sont explicitement présentes, puisque l'une des critiques qui est faite, ou en tout cas l'une des questions critiques suscitées sur l'écriture, porte sur le fait que le texte n'entre plus en dialogue, ne répond pas, hein. Et d'autre part, sur le fait que lorsqu'il circule, il circule auprès de tout le monde, et donc pas forcément dans une logique où il peut y avoir un discernement. Or, c'est le sens du verbe krinein en grec, discerner. Donc, les deux thématiques que tu as particulièrement développées, qui ne sont pas particulièrement développées par Derrida, qui redonnent sa valeur au texte de Platon, par-delà la critique qui lui a été adressée, me paraissent présentes vraiment dans la littéralité du texte. Alors, cela dit, dans ce texte, il y a d'autres aspects dont je voudrais partir pour te poser une question. D'abord, premièrement, ce texte est lui-même dialogique et même polyphonique. C'est-à-dire que Platon écrit, utilise l'écriture pour consigner un dialogue dans lequel intervient Socrate avec un disciple. Et dans ce dialogue, pour aborder la question de l'écriture, Socrate recourt, comme il le fait souvent, à un récit dans lequel il fait intervenir des dieux grecs, Thot, inventeur de l'écriture, et Thamous, roi. Or, ça, c'est un élément important, parce que toute la discussion est posée dans le cadre de ce dialogue. C'est-à-dire que la position de Socrate est une réponse à la prétention de Thot, le technicien, qui prétend que, non pas simplement que l'écriture a un pouvoir, mais il ne parle pas de l'écriture, il parle des hommes. Il dit que les Égyptiens vont devenir, je cite de mémoire, je pense que c'est ça, Sophoterus, Kai Mnemosikoterus, et ça veut dire donc en grec, ils vont devenir plus savants, plus philosophes, on pourrait dire, et plus capables de mémoire. Or, c'est bien parce que la proposition porte sur les hommes et leurs capacités. On pourrait dire que c'est une formulation de la thèse de l'intelligence artificielle, que l'objet est en lui-même le sujet, est en lui-même la culture de la personne, que la réponse de Platon conduit à la dissociation et à la distinction entre l'objet et le sujet. Et ça, je pense, c'est un élément important. Deuxième chose que je voudrais rappeler, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la réponse du dieu Thamous fait référence immédiatement à ceux qui sont appelés à se servir de ces objets, tois melousi krestai, je pense, dans le grec, si je me souviens bien, c'est-à-dire ceux qui, de toute façon, vont avoir, pour reprendre l'expression de Michel de Certeau, à faire avec les objets qui leur sont balancés, en quelque sorte. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et le deuxième élément que je signale aussi, et qui permettrait peut-être un approfondissement, c'est que, pour Platon, l'écriture est un dispositif d'inscription, enfin, pour Platon, pour Thot. Dans le dialogue, l'écriture intervient comme un dispositif d'inscription et pas comme un dispositif lui-même de symbolisation. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de fixer des traces. Or, alors bien sûr, ça se situe dans le contexte où les Grecs avaient une perception plus ou moins particulière de ce que pouvait être l'écriture égyptienne, qui ne savait pas déchiffrer. Mais donc, la question même de la façon dont cette écriture s'organise en tant que langage n'est pas posé à l'intérieur de ce dialogue. Donc la question... Or, il me semble que dans ton analyse, d'une certaine façon, tu reprends ce point de vue et d'une autre façon, tu le combats. Je ne dis pas que c'est contradictoire, mais ce serait la tension. Parce que définir l'écriture comme une technique, et seulement comme une technique, et pas comme un mode de symbolisation, est-ce que ça ne nous fait pas rater quelque chose, justement, de ce qui se joue dans ces nouveaux objets d'écriture qu'on a vis-à-vis de nous ? Et d'autre part, est-ce que, et je pense que ça va ensemble, est-ce que la considération de ceux qui doivent se servir de l'écriture, et donc, ça va ensemble parce que faire référence à celui qui doit se servir, c'est définir l'écriture avant tout comme un objet qui va être interprété par des gens dans des usages et dans des situations, est-ce que cette prise en considération n'est pas nécessaire pour analyser ce qui est en jeu? Autrement dit, ne faut-il pas aller plus loin et caractériser l'écriture comme étant, certes, nourrie par un substrat technique, mais étant aussi autre chose que de la technique, et donc participant elle-même à l'activité de symbolisation?
Non, mais j'en suis absolument d'accord. C'est pour ça que je parle d'organologie générale. C'est-à-dire que j'ai pas eu pas pu développer longuement ce point, mais pour moi, on ne peut pas, quand on s'intéresse à un fait humain, quel qu'il soit d'ailleurs, on ne peut pas comprendre ce dont il s'agit si on ne tient pas compte des trois niveaux organologiques. Par exemple, parler de l'écriture, ça suppose aussi parler de l'œil, parler de la main. Enfin, il faut tenir compte de tout ça, mais il faut aussi tenir compte de l'espace social. Donc, il n'y a pas l'écriture chez les Nambikwara, c'est pas de l'écriture. C'est la fameuse scène de que raconte Lévi-Strauss, c'est parce que précisément, ça ne fait écriture que s'il y a un monde lettré ou disons littéralisé. Enfin, dans une écriture alphabétique, parce qu'il y a d'autres formes d'écriture, bien entendu. Mais donc là, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Mais justement, ce que j'essaye de faire, et c'est compliqué, parce que il y a tout un ensemble de règles, de méthodes à mettre en œuvre. Ce que j'essaye de faire, c'est de tenir les trois niveaux ensemble. Après, ce que j'appelle moi le symbolique, c'est le circuit. C'est-à-dire que c'est l'activité. Un symbole, c'est évidemment une chose, et ça c'est un point fondamental, y compris le mot. Pour moi, un mot, c'est une chose. Ça choque énormément les linguistes quand je dis ça. Mais pour moi, un mot, c'est une chose. Je suis en train de parler là, et ce que je fais, je produis des choses qui circulent dans l'air, avec une langue que j'ai dans la bouche et qui fait des gestes. Ma langue fait des gestes. Et en faisant des gestes, elle fait circuler des mots. De ce point de vue-là, quand je dis que c'est une chose, je veux dire que c'est un artefact. Et cet artefact, il est objectivable. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas, avec des oscilloscopes, des machines comme ça, le transformer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'immatériel. Voilà, plus précisément ce que je voulais dire. Et si on dit qu'une chose, c'est ce qui est matériel, de ce point de vue-là, un mot est une chose. Maintenant, on a affaire à, dans le symbole, pas simplement à des choses. Un symbole n'est un symbole que pour autant qu'il passe à l'acte symbolique, c'est-à-dire qu'il permet à celui dont il est le destinataire ou le destinateur, de symboliser précisément, c'est-à-dire de se transformer. Si on ne prend que le symbole tout seul, alors on se trompe. Bon. Et là, évidemment, on a beaucoup de problèmes parce que, à partir du 19e siècle, il va y avoir une spécialisation des savoirs qui va tout découper en rondelles et qui va avoir tendance à dire on prend un aspect mais on prend pas les autres pour des raisons d'économie, de l'efficacité, de la division industrielle, de la division intellectuelle du travail. Là où, évidemment, il y a beaucoup de discussions sur ce que je peux dire ou ce que peuvent dire des gens comme le roi Gouin, etc. C'est que pour moi, le symbole et la technique, c'est d'abord l'extériorisation. C'est-à-dire que c'est depuis l'extériorisation qu'on peut les penser. Je suis bien d'accord pour dire qu'il faut distinguer le symbole de la technique. Pourquoi ? Parce que je viens d'expliquer que le symbole a une dimension sociale, c'est-à-dire de circulation, donc sociale, donc psychique également. Mais en même temps, je pose que le symbole, il est d'abord un processus d'extériorisation. Or, ce processus d'extériorisation, c'est le processus de la technicisation du vivant. C'est pour ça que j'en appelle toujours à Leroy Gourhan.
Mais si je peux ajouter un petit mot, mais on va peut-être pas faire un dialogue trop long ensemble. Ce processus de l'extériorisation dans l'écriture, c'est aussi le processus d'ouverture d'un nouvel espace d'interprétation.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que l'écriture n'est pas seulement le codage ou la grammatisation. C'est aussi l'invention d'un certain univers de la représentation, du symbole qui justement par la mise à distance de l'objet permet un certain type d'interprétation
aussi. Et donc d'intériorisation, parce que l'extériorisation nécessite l'intériorisation.
Merci. Francis me faisait signe, tu voulais dire quelque chose, non? Signe. Bruno.
C'est ça, le signe.
Bruno,
choses,
peut-être Bruno.
Non, je peux peut-être rebondir. C'est pas facile pour moi de participer à ce flux parce que le type de sociologie que je pratique est déshabitué, peut-être déqualifié, je dois dire. Le niveau est peut-être trop élevé. Mais il y a deux choses qui me font réagir et qui, je pense, permettront peut-être de mieux préciser. D'une part, bon, sur les choses, je suis issu d'un courant pragmatique qui revendique le pragmatisme, pragmata, les choses, Peirce, qui est précisément le théoricien du signe et qui montre bien qu'il y a au moins trois, c'est triadique. Donc, je voulais savoir déjà comment vous positionnez sur cette possibilité de déplier en trois niveaux, bon, le fameux indice, l'icône et le symbole. Donc déjà, est-ce qu'on peut avancer sur cette spécification? Parce que le mot sont des choses, je trouve justement, c'est le problème. c'est les choses, on ne les transporte pas de la même manière que les mots. On voit bien, un mot peut se déposer sur des supports différents. Bon, c'est évident, de la tablette d'argile jusqu'à Internet. Les choses, je sais bien que les nanobio essayent de les numériser pour les faire passer à travers le réseau, mais elles vont résister pas mal. Donc il y a bien un niveau là qui est... Alors ça m'amène aussi à une autre question qui est plus sur l'anachronisme et sur la temporalité. C'est-à-dire, bon, moi je connais mal l'origine de la géométrie du sol, mais j'ai beaucoup travaillé la conscience intime du temps, qu'on a essayé de transformer avec des collègues de manière très prétentieuse en expérience collective de la durée. Pour faire de la sociologie, quoi. C'est-à-dire passer de cette espèce de rapport du jeu au monde à la manière dont la durée, justement, est thématisée par des acteurs et la question du temps qu'ils se donnent et du temps qui leur reste, d'une certaine manière, ou qui leur est offert par les choses. Donc ça m'amène à poser une question. Donc il y a la première... De toute façon, c'est un dialogue qui s'invente, donc je n'ai pas de règles grammaticales de la discussion. C'est à la fois, j'ai l'impression d'entendre un discours qui s'annonce comme on est dans une évolution irréversible. Il y a des stades. Il y a des stades qui sont visiblement irréversibles. La grammatisation, donc, s'accroît, s'augmente, produisant des effets d'irréversibilité, dont le numérique aujourd'hui est l'héritier. Et en même temps, c'est retour aux sources tout le temps, réversibilité, Platon. Platon, première boucle, mais petite boucle, Simondon. Simondon, quand on connaît un peu, c'est grâce à Bernard Stiegler d'ailleurs qu'il y a une édition de Simondon qui a pas mal circulé, c'est vrai que c'est un auteur qui a eu un retard, un effet retard anachronique justement dans sa discussion publique, ce qui est assez intéressant en soi. À un moment des technologies d'après-guerre, c'est la fameuse diode de Simondon, quand on a fait un peu d'électronique ou quand on a regardé un peu les technologies, ça c'est troublant, quoi, comme exemple technique qui le fascine, hein, il est fasciné par ces objets-là. Donc je voulais savoir comment on tient en même temps une analyse de processus. Alors, quelles sont les séries d'événements, de configurations, qui permettent de tenir en même temps ce retour permanent à la source, donc cette réversibilité de dire au fond, quand on lit bien Platon, tout était déjà donné, ce qui est très platonicien d'une certaine manière, et en même temps une annonce d'une ouverture d'avenir, pour employer une expression que j'adore d'un philosophe malheureusement qui a quitté Paris parce que c'est un disciple de Lévinas, mais il supportait plus le climat, qui est Raymond Duval, qui est un type très bien, qui a fait un bouquin magnifique, qui, grâce à moi d'ailleurs, s'est vendu parce qu'il avait disparu, qui s'appelle Temps et Vigilance, qui reprend justement d'Aristote jusqu'à Lévinas toutes les mises en philosophie de la question du temps. Et l'ouverture d'avenir, c'est précisément cette possibilité que vous laissez, et à laquelle j'adhère, hein, le premier, parce que je ne serais pas venu à ces journées sinon, qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce monde qui s'ouvre, qui est le monde, donc, dans les traits numériques ou des traits numériques. Ça. Donc voilà, je voulais avoir un peu de clarification sur les deux aspects. Cette espèce de tendance à replier la chose et en faire un bloc, au fond, comme si tout était un peu de même nature. Et du coup, le numérique arrivant dessus, ben, il n'a aucun problème avec ça, puisque c'est de même nature. Et deuxièmement, la question du temps, que je trouve quand même pas assez déployée dans mon esprit. Je suis peut-être trop marqué par les philosophes analytiques, et je m'en excuse.
La bouddhiste parfaite. Moi, je ne dirais pas je dirais surtout pas que tout est dans Platon, hein, et c'est surtout pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans Platon, et que il y a des phénomènes d'après coup, et que ces phénomènes d'après coup font qu'on peut lire Platon contre Platon. Je veux dire par là que bon, moi je pose quand même fondamentalement, et je pense que c'était clair dans mon propos, que l'anamnèse suppose l'hypomnèse. On peut d'ailleurs très bien ne pas partager ce point de vue, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais moi je pose ça. L'anamnèse suppose l'hypomnèse. Ça, c'est anti-platonicien, hein, de manière absolument irréductible. C'est absolument le contraire de ce que dit Platon. Donc maintenant, si, comme c'est votre cas et le cas de beaucoup de gens ici, vous avez lu Platon, vous savez bien que Platon se défend comme un diable. Et que c'est absolument diabolique, en effet, la capacité qu'il a, finalement, à contrecarrer les arguments, tous les arguments qu'on va pouvoir lui opposer dans le temps. Donc, au-delà de cette question du statut de la référence à Platon, et mais je dirais, moi, au savoir en général, parce que et je pense que le savoir est cumulatif, et qu'en tant que le savoir est cumulatif, il est aussi réflexif, et que par conséquent, il revient toujours sur ses axiomes, sur ses prémices. Enfin, c'est ça qu'on appelle le savoir. Donc c'est tout à fait normal de retourner aux sources. Sinon, c'est pas du savoir. C'est ça la base même pour moi du savoir, et c'est ça que justement Platon appelle l'anamnèse. Enfin, c'est plus compliqué chez Platon, évidemment. Je parle le mot anamnèse de manière... Ça mériterait de longs commentaires, mais on n'a évidemment pas le temps ici. Je pense que vous me faites crédit sur ce point. La question fondamentale que j'essaye, dont j'ai pas tellement parlé finalement, parce qu'on n'en avait pas le temps, mais je me suis plutôt attaché à des préalables qu'au contenu même de la discussion. La question fondamentale que j'essaye d'instruire ici, et les conditions pour mettre en œuvre cette question que j'essaye de préciser, c'est la question de ce que j'appelle la rétention tertiaire, qui est un concept qui n'est pas husserlien, sauf à dire que Husserl en parle par défaut, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelle la fameuse Bildbewusstsein, c'est-à-dire la conscience d'image, et dont il dit, par nature, puisque ce sont des choses qui appartiennent au monde, donc qui sont constituées, je ne peux pas les prendre en compte dans la constitution des rétentions primaires et des rétentions secondaires, donc dans la constitution de l'anamnèse, parce que finalement, Husserl, comme Platon, essaye de reconsidérer ce qu'on appelle l'anamnèse, mais que lui appelle l'intentionnalité. Ce que j'essaye de faire moi, c'est de montrer que les rétentions tertiaires ont une histoire, et que si on prend pas, et ce sont des choses, les rétentions, au sens strict, là, au sens de pragmata, si on prend pas en compte les spécificités des rétentions tertiaires, alors y compris dans leur dimension iconique, indiciaire, symbolique, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc c'est tout ce que j'essaye de dire. Après, je pense que tout ça mérite évidemment beaucoup, beaucoup de, comment dire, de développement, de nuances, de précisions que j'ai pas eu le temps de faire, bien entendu.
Merci. Je crois que Bruno voulait dire quelque chose, Bruno Béchimon.
Nous dirons tous quelque chose. Donc, en ce qui me concerne, j'aimerais revenir sur ce que tu as évoqué à propos de la grammatisation comme court-circuit de l'interlocution et de la transindividuation. Alors, la première chose que ça m'inspire, c'est que, d'une certaine manière, la grammatisation n'est qu'une conséquence d'une propriété de la technique en général, dans ce que tu as évoqué, dans la spatialisation qu'apporte la technique sur la temporalité de l'esprit. Donc ça me paraît assez important, puisque une manière de comprendre la technique, c'est de dire que elle a toujours pour effet de permettre de contrôler le temps en le spatialisant dans un schéma géométrique qui permet la répétition. C'est pour ça que on a cette idée de circuit et de court-circuit. À la limite, ce qui est important, c'est pas tellement qu'il soit court, mais c'est qu'il y ait un circuit qui soit imposé par la technique, c'est-à-dire que le fait du moteur explosion jusqu'à le programme qui commande notre manière de répondre, eh bien, la spatialisation commande la répétition de l'événement et permet de le prédire, de la raisonner, de le rendre totalement prédictible par le calcul. Et donc, dans cet esprit, la critique que tu portes sur les médias de masse, c'est effectivement que il y a une répétition qui est imposée en fait au consommateur ou au destinataire de ce média de masse, et tout ce qu'il peut faire, c'est répondre dans le cadre du calcul qui a prévu sa réponse, c'est-à-dire dans la place qu'on lui a laissée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas une réponse qui serait libre. En fait, sa réponse, elle est commandée par le dispositif, elle est convoquée par par le dispositif technique. Il n'est qu'un élément de ce dispositif. Et donc, il y a court-circuit parce que ce circuit, il est fermé, en fait. Hein, il est bouclé. Il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. On est dans une répétition en boucle, en fait, où l'utilisateur, un peu comme on le voit souvent dans l'ergonomie des systèmes d'information, l'utilisateur n'est qu'un élément du système informatique, mais il n'est pas surplombant le système informatique, il n'est pas extérieur au système informatique, il est totalement inclus dedans. Donc, si je reformule ce que tu as dit, j'analyse en fait la difficulté que tu soulèves dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'il y a une clôture en fait de la temporalité de l'utilisateur par le geste de la technique où l'utilisateur est à raisonner en quelque sorte, convoqué à répondre. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut déconstruire cette commande de l'utilisateur par la machine, par l'outil, etc. Alors la réponse que tu proposes, c'est l'amatora, hein, c'est-à-dire que l'utilisateur puisse avoir un autre type de pratique, c'est-à-dire une pratique qui ne soit pas une réponse qui est finalisée par le système technique, quelconque, une réponse qui serait dans le négocium, en fait, dans l'utilité, dans la poursuite, etc., mais une réponse qui serait plus libre, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle serait pas arraisonnée par le conditionnement de l'outil. Donc en fait, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est une réponse par le haut, hein, c'est-à-dire une réponse où c'est l'utilisateur qui se met dans une posture d'extériorité par rapport au système technique et qui le réapproprie dans le cadre de ses pratiques d'amateur, dans le cadre de sa pratique de construction. C'est-à-dire que un peu dans ce que tu dis dans un de tes ouvrages, on passe de l'usage à la pratique, hein, c'est-à-dire on reconstruit l'un par rapport à l'autre. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une autre dimension qu'on pourrait introduire au-delà de celui qui aime ce qu'il fait et donc qui s'approprie l'outil, c'est également celui qui connaît l'outil. Hein, tu as recommencé ton intervention en reprenant la définition du lettré comme celui qui connaît ses lettres, en quelque sorte, hein, celui qui s'y entend dans la manipulation des techniques symboliques, des techniques intellectuelles. Or, aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que non seulement on a un arraisonnement du consommateur par l'outil technique, mais aussi on a un illettrisme au sens là assez fort, c'est-à-dire de celui qui ne connaît pas ce avec quoi il va jouer. Et donc, ce qui m'a fait sursauter un peu, c'est l'éthique hacker, parce que le hacker, c'est celui qui s'y connaît et suffisamment pour rentrer dans l'intérieur du système, hein, c'est-à-dire qu'il peut déjouer le système puisqu'il sait comment en jouer. Hein, il a cette possibilité, il a cette plasticité. Et donc, je me demande si le lettré du numérique, c'est pas aussi une reconfiguration des classiques clivages de la culture, c'est-à-dire que d'un côté on a les arts antiques libéraux où l'esprit noble s'adonne à l'osium, et puis l'autre les arts antiques mécaniques et serviles qui s'adonnent uniquement à l'utilitaire. Là je me demande s'il n'y a pas la place pour le développement d'une culture technique, c'est-à-dire une culture des lettres modernes au sens où elles sont habitées par l'instrumentation numérique, l'instrumentation technologique, etc. Et c'est qu'en s'appropriant ces techniques, c'est-à-dire devenant un lettré du numérique, là, au sens strict du terme, que une pratique de l'osium devient possible, parce que à ce moment-là, il est armé pour jouer de la technique et pas seulement pour être le jouet de cette technique. Et donc, la question que je me pose, c'est que est-ce que l'amateur de la pratique n'est pas aussi un amateur de la technique à proprement parler, c'est-à-dire qu'il faut aimer le système technique pour pouvoir en jouer.
Oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Je dirais, d'abord, ce que j'appelle un court-circuit, c'est un processus de désindividuation et de désidiomatisation. Oui. Je participe plus à la... Qu'est-ce que c'est que l'idiomat... Alors, idiome, on l'entend souvent dans un sens restreint, au sens quasiment de dialectisation, au sens de dialecte, quoi. Hein, bon. C'est pas dans ce sens-là simplement que je l'emploie. Pour moi, l'idiomatisation, c'est tout simplement le fait que je produis un idiolecte. Et que mon idiolecte fait que j'arrive à me singulariser symboliquement et donc à parler singulièrement, comme personne ne peut parler à ma place, qui est à mon avis la seule façon de parler vraiment. Et je crois que les tendances de l'organisation industrielle du travail appliquées au milieu symbolique tendent à produire de la désidiomatisation, de la perte de participation, y compris sur le plan politique, avec tout ce que ça peut donner aujourd'hui, comme démagogie, populisme, de tout poil, etc., par ailleurs. L'amateur, pour moi, c'est évidemment ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas simplement celui qui aime, mais c'est celui qui est appareillé et organologiquement doté. C'est-à-dire que, j'en ai pas parlé là, mais bon, moi ces questions, je me les suis posées à l'IRCAM, principalement. Je me les suis posées à l'IRCAM parce que je me suis posé la question de en quoi je peux accéder à un certain type de musique si je n'ai pas moi-même un certain type de pratique musicale. Et je pense que Alors, des raisons personnelles, parce que j'ai moi-même pratiqué certaines musiques, je pense qu'il y a des destinations qui ne sont pas possibles si des pratiques ne sont pas en face pour pouvoir les recevoir. Il se trouve que l'amateur, pour moi, c'est toujours celui, on dit le connaisseur en anglais, hein, c'est celui qui s'y connaît. Alors, au niveau soit du système technique, parce que tu peux, par exemple, très bien jouer du piano et ne pas savoir ce qu'il y a dans le piano. C'est vrai que si tu es un très grand pianiste, en général, tu discutes avec le facteur de piano et tu t'intéresses à la façon, y compris si tu fais un piano préparé, etc., tu rentres dans le truc. Mais tu peux être un excellent, pilote de course sans être un mécanicien. Bon, même si tu dialogues, même si
justement, je crois que le bon pilote, c'est celui qui sait régler sa voiture et donc qui connaît. C'est le seul truc que je connais en sport. Donc là, j'en suis assez fier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que
c'est pour ça que
tu n'es pas. c'est que tu n'es pas le mécanicien, mais par contre, tu discutes avec le mécanicien.
Absolument.
Tu as une relation avec le mécanicien. Donc, tu as une relation de connaissance d'amitié, on pourrait dire, avec l'appareil et la machine. Autrement dit, pour moi, ce qui constitue un amateur, c'est son organisation, enfin, c'est sa dotation organologique. Bon. Et si je m'intéresse à l'éthique hacker, qui est vraiment un bouquin intéressant, hein, c'est un peu bizarre par moment la façon dont c'est écrit, parce que c'est un type tout jeune qui a écrit ça d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment intéressant. Il y a des trucs très très audacieux là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est que précisément le monde hacker, c'est un monde tel qu'il est décrit par Immanuel en tout cas, c'est un monde qui a une certaine technicité en commun, et que cette technicité rend possible un processus d'individuation collective. Alors, ce que je crois, moi, avec Immanuel, et beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, la question du lettré numérique, ça nous renvoie à une question beaucoup plus large, qui est une réorganisation du modèle industriel. Alors, tout à coup, on passe dans... Bon. Mais je pense que cette question ne peut pas se résoudre si on ne va pas au-delà d'une organisation du modèle industriel sur le modèle classique, disons fordiste, pour aller très vite, consommateur, producteur. Et qu'il y a quelque chose en ce moment, et ça vient de partout, on voit que ça sort, qui est en train de chercher à s'installer sur ce plan-là. Par ailleurs, et je m'arrête là-dessus, puisque notre question c'est les mondes lettrés et le numérique, donc je pense que le monde lettré a aujourd'hui une responsabilité par rapport à ça, de produire ce que j'appelle des appareils critiques, parce qu'il n'y a pas d'amateur s'il n'y a pas d'appareillage critique, s'il n'y a pas un espace critique, de débat critique, etc. Voilà, et ça c'est aussi un appareillage technique pour moi, l'appareillage critique. Hein.
Juste une précision bibliographique. J'en profite pour parler des travaux de Nicolas Auré, qui a été un précurseur et qui est venu à mon séminaire au début des années 90, nous parlant de choses qu'on ne connaissait absolument pas, et qui a été un des premiers à publier beaucoup de textes sur les hackers. Et comme il a fréquenté Laurent Thévenot et Luc Boltanski, il a beaucoup cherché à comprendre comment cette position du hacker pouvait se justifier publiquement. Et alors, je ne connais pas le texte dont vous parlez, donc ça serait intéressant de voir la généalogie aussi de cette mise en scène publique du hacker, qui maintenant est quand même bien constituée au niveau global. Et voilà, c'était juste une précision.
Tout à fait, merci.
Merci. Bon, donc Éric Piaf.
Bon, ça va être. C'est évidemment difficile de parler, de poser de questions en dernier, après un débat presque épuisé. Et puis, en même temps, je suis vraiment pas philosophe, donc puisqu'on parle de savoir savant et profane, eh bien, je revendique la casquette du profane en philosophie. Je commencerai par dire que je suis tout à fait d'accord avec votre critique de la philosophie classique telle que vous l'avez énoncée au début. Et effectivement, moi, je vois clairement l'écriture comme une technique, avec quatre constituants de base, un support ou des supports, un système de signes, une activité psychique et du social. Et c'est vrai que si on voit dans ce contexte-là l'écriture comme une technique intellectuelle, ça pose à terme la question de l'objectivation de la technique, qui est à mon avis assez essentiel, parce qu'il y a un double phénomène, c'est-à-dire que on a d'un côté les choses qui sont objectivables, notamment la science revendique une objectivité, et là, dans la hiérarchie que critique d'ailleurs Simondon, on aurait la technique qui serait en deçà de la science, donc qui serait peut-être a priori encore plus objective, alors que même quand on regarde l'écriture en tant que technique, on se rend compte que l'objectivité est particulièrement difficile. Par rapport à ça, moi j'ai l'impression que le numérique, dans la mesure où ça crée un déplacement dans ses constituants que sont par exemple le support et le système de signes, au moins ça, créer des déplacements dans l'univers entier de cette technique spéciale qui est l'écriture, et donc est à la fois un révélateur de une sorte du fonctionnement de l'écriture et de la technique, mais aussi quelque chose qui explique nombre de conflits qu'on peut vivre presque au quotidien en ce moment. Quoi. En revanche, il y a quand même deux, trois petites choses que j'ai du mal à cerner, c'est votre critique de la calculabilité. Par exemple, j'ai vraiment, je pense que c'est vraiment une question de manque de temps, mais la calculabilité, on ne peut pas la réduire à une vision très très weberienne, dans la mesure où elle n'est pas séparable, à mon avis, de l'écriture. Que vous alliez, et je donne trois exemples au hasard, la création de signes, hein, quand même, l'utopie mathématique de la machine qui pense mieux que l'homme, hein, ça commence avec l'algorithme d'Euclide et ça se termine avec Hilbert, et la spatialisation de l'écriture. L'algèbre, c'est quand même ce qui permet un saut quantitatif dans la calculabilité. Et ensuite, je vais peut-être rebondir sur des questions que j'ai déjà entendues par rapport à l'histoire. J'ai l'impression, et c'est là que je suis clairement pas philosophe, que même si l'émergence du numérique permet de comprendre de manière différente des choses, de manière différente, mais peut-être qu'au XVIIe siècle, il s'est passé aussi quelque chose, une transformation radicale dans un des univers de l'écrit qui a invité aussi à une sorte de réflexivité pour comprendre comment on pense, avec quel est notre outillage et comment on s'organise avec ça. Mais moi, ce que je sens dans c'est peut-être là que je suis vraiment pas philosophe, j'ai l'impression que par rapport à tout ça, on vit des régimes différents de temporalité. Et je voudrais donner deux exemples. Par exemple, la temporalité de l'écriture, et plus précisément la temporalité du monde lettré, dépasse la simple vie d'un lettré. C'est-à-dire qu'on est pris dans des traditions, des enjeux, etc. On parle, le débat aujourd'hui, c'est monde savant, monde profane. La temporalité de la séparation entre le monde savant et le monde profane est longue et lente et s'effectue. C'est des bagarres, hein, c'est aux alentours du 19e siècle, ça se fait pas tout seul, etc. Et là aussi, on a une autre temporalité dont il faut qu'on tienne compte si on veut essayer de comprendre ce qui se passe autour, effectivement, du numérique en particulier et de l'écriture en général. Et du coup, il y a des thèmes qui ont été évoqués hier et ce matin autour des dynamiques, des ruptures, des recompositions, des conflits dans les mondes lettrés que je vois moins historicisés, quoi. Alors, au final, je reposerai la question que je posais aussi ce matin, c'est-à-dire est-ce que vous, mais nous tous, en fait, on n'a pas, malgré tout, on n'est pas les véhicules inconscients d'une idéologie qui consiste en une vision 19e-miste du monde lettré. Je voudrais, par exemple, rappeler qu'il y a un absent systématiquement dans ce débat, c'est le physicien, c'est le mathématicien, ce sont des gens qui recombinent énormément l'écriture, qui la transforment, qui font qu'aujourd'hui on a tous des téléphones portables et puis l'électricité, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel, et ils sont occultés. Ils sont occultés pourquoi ? Parce que ils sont pas dans l'univers lettré, classique, traditionnel, platonicien, j'aurais presque envie de dire, quoi. Et du coup, on maintient artificiellement une césure entre les sciences dites humaines et les sciences dites exactes, en masquant les recompositions sociales et intellectuelles. Et c'est là que, quand même, au final, je suis d'accord avec vous, parce que qu'est-ce que c'est que le hacker ? C'est effectivement le lettré d'aujourd'hui, c'est celui qui maîtrise la technologie de l'intellect. Et en plus, qu'il aime bien ça, mais il y a 2000 ans, 500 ans, les gens qui maîtrisaient la technologie de l'intellect, ils adoraient ça aussi, hein. Donc c'est là que, en fait, je me demande jusqu'à quel point c'est pas aussi un souci qu'on a nous tous, hein. C'est notre problème avec Simondon, c'est qu'on n'arrive pas. On a tellement été éduqués dans une dissociation entre la pensée pure et la technique servile que on s'offre des visions ahistoriques de l'évolution de l'écriture, puis après on se rattrape sur le quotidien en disant oh, regardez comme ça bouge beaucoup, là les hackers ils font vraiment quelque chose.
Voilà. Mais moi je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein. Sur la calculabilité, c'est un sujet ça souvent où la discussion n'est pas simple, parce que c'est un sujet particulièrement compliqué. Et régulièrement, je m'agrippe avec mon ami Jean-Michel Salansky sur le sujet, parce qu'il me dit « Oui, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Bon. Moi, j'ai écrit un livre, je m'excuse de m'y référer, qui s'appelle « La faute d'Épiméthée », où j'ai passé 200 pages à détruire l'opposition que Heidegger fait entre la préoccupation calculante et l'individuation, en disant que ce qu'il appelle l'indéterminé. Bon. Il n'y a de rapport à l'indéterminé que par la détermination. Donc, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant il faut arrêter de penser de manière oppositionnelle, il faut commencer à se mettre dans une pensée compositionnelle. Donc moi, la calculabilité, j'adore ça. Mais il faut distinguer deux questions, de la, enfin, au moins deux, beaucoup plus que deux, mais en tout cas au moins deux, dans le cadre de nos discussions. Il faut distinguer d'un côté la calculabilité telle que Weber l'a décrit comme ce qui organise des nouveaux rapports économiques entre les individus, en particulier entre les consommateurs, les entrepreneurs et les producteurs. C'est ce qu'il raconte, bon, vous savez bien, sur les fabricants de dentelles. Il dit, qu'est-ce que c'est que le proto-capitaliste ou le pré-capitaliste ? C'est celui qui est capable de calculer des relations, comment il va mettre des créer des relations entre des producteurs qui sont des gens qui font chez eux, sont des paysans qui font de la dentelle, et d'autre part, des consommateurs où il va créer des marchés, et par des calculs, il va contraindre les producteurs à soumettre à ces marchés, il va contraindre ces marchés à se soumettre à l'offre des producteurs. Bon, il dit, c'est ça, le proto-capitalisme. Bon. Alors ça, c'est une calculabilité telle qu'elle va se mettre à régner et à détruire un certain type d'opposition qui régissait la société jusqu'alors, et qui était codifiée d'ailleurs par le Vatican, qui condamnait l'usure, qui condamnait l'argent, qui condamnait tout un ensemble de choses, toute une calculabilité, et qui consistait à dire, le monde est séparé en deux sphères. Il y a les gens de l'osium et ceux du négocium, pour aller très vite. Hein. Bon, évidemment, tout ça nécessiterait des nuances dans le temps, parce que ça se transforme quand même beaucoup au fil des siècles, et même des millénaires. Après, la calculabilité au sens des mathématiques, évidemment, ça se pose dans des termes tout à fait différents. Dans le domaine en particulier, par exemple, dans les travaux de Jean-Michel Salonski, tels qu'il les met en œuvre, je me sens pleinement... le calcul n'est pas du tout mon ennemi. La question, c'est comment le calcul est mis en œuvre, soit au sens, dans un sens qui produit, disons-le, de manière un peu simple, de l'entropie, soit de la négentropie. Ça c'était le premier point. Sur les sciences humaines et les sciences physiques, pour moi j'ai parlé des physiciens là. Hein. Simplement, je parlais pas que des sciences humaines, ou de la philosophie, ou que des lettres. D'ailleurs, Platon, pour moi, c'est un géomètre, c'est un mathématicien, et c'est, on peut pas dire que c'est un physicien, parce que distinguer tout ça à cette époque-là, ça a vraiment pas de sens. Mais par contre, Newton se présente comme un philosophe. Bon, il se présente pas comme un physicien. Et toutes ces choses, ces découpages en ontologie régionale, comme dit Husserl, qui se distingue, ce sont des choses extrêmement récentes qui datent de la division industrielle du travail, précisément. Alors, en revanche, j'ai essayé de dire que, à partir du XIXe siècle et encore plus du XXe siècle, la sphère de l'osium, qui était séparée de la sphère du négocium, c'est-à-dire en réalité de la production, s'intègre là-dedans. Et cette intégration, c'est ce que, par exemple, certains vont appeler la technoscience, comme Habermas et d'autres. Cette intégration transforme radicalement les problèmes. Mais ça, c'est d'abord les physiciens, les biologistes que ça concerne, bien plus que les sociologues ou les, a fortiori, les philosophes. Même si les géographes, par exemple, bon. Voilà. Donc, j'ai pas parlé des sciences humaines. Voilà. Spécialement. Je pense que ce que j'ai dit, en le disant, je pensais tout autant aux physiciens et aux mathématiciens.
Moi, juste un mot peut-être pour rebondir, parce qu'après on va perdre peut-être ce fil-là sur le calcul. Moi, ce qui me trouble, c'est cette idée qu'il y a un plan de calcul et qu'il y a visiblement que la discussion va tourner autour de savoir si c'est calculable, non calculable. Ce qu'on observe quand on suit des dossiers ou des choses complexes où s'affrontent des disciplines, quand on les regarde travailler, moi je pense au climat par exemple, il y a des plans de calcul extrêmement hétérogènes. Et vous avez fait allusion aux nanotechnologies rapidement. J'aimerais connaître la manière dont vous l'introduisez dans la série, parce que Jean-Pierre Dupuis avait lancé l'alerte avec ses documents sur la convergence et que tout allait converger, etc. Et c'est une grosse dispute. C'est qu'en fait, ça ne converge pas si facilement parce qu'il y a une hétérogénéité des espaces de calcul. Et est-ce que justement, un peu comme pour les régimes temporels, selon les espaces de calcul dans lesquels sont les acteurs, ils n'accrochent pas les mêmes choses. Et c'est bien là que se fait l'irréductibilité aussi. Et dans le cas du climat, c'est particulièrement net. Il suffit de lire les rapports du groupe scientifique sur le climat qui sont en ligne. Et vous verrez qu'il y a une multiplicité de façons de modéliser le futur et le climat et que ça ne converge que de manière politique.
Ça, là-dessus, je suis absolument d'accord, parce que de toute façon, les calculs deviennent des instruments. Ils font partie de la couche organologique de deuxième niveau dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça fait partie des appareils. Voilà.
Juste suite au débat, là, faire un petit coup de pub pour un ouvrage à sortir qui s'appelle Les Trois Écritures, Langue, Monnaie, Code. C'est de Clarisse Ehrenschmidt. C'est chez Gallimard et ça sort en avril. Et j'ai eu évidemment le tapiscrit en main et c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, et qui est particulièrement éclairant, notamment sur cette histoire du proto-capitalisme en relation avec l'écriture monétaire. Très et l'Internet, bien sûr, parce qu'elle aborde l'Internet.
Très bien. Donc, il y a des, donc déjà des personnes dans la salle, je pense, qui ont des choses à dire, des questions à poser. Monsieur m'a fait, vous m'avez fait signe. Vous vouliez dire quelque chose? Attends, non, je vais vous apporter un micro. Enfin, peut-être Muriel.
Oui. Je suis venu avec le carton de Beaubourg. J'étais attiré. Je ne savais pas très bien pourquoi j'étais attiré. L'intervention de Guichard me situe complètement. J'ai été physicien pendant 40 ans. Depuis 5 ans, je ne le suis plus et je le suis de moins en moins. Donc, à la limite, pas du tout. Et je suis complètement désidiomatique. J'ai été face à un paquet d'idiomes. Probablement, je suis en dehors de toute sphère mondaine. Je suis très proche de quelqu'un qui est proche de Guichard, et ton intervention m'a touché tout de suite et m'a fait bondir, évidemment, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Et cette personne a créé le terme de dictyologie à propos de ce thème que vous traitez. Et moi, tout ce que je veux faire là, en 3 minutes, c'est ouvrir la fenêtre, parce que j'étouffe sous les idiomes, et je pense que je suis jamais le seul là-dedans, mais qu'on se conforme quand même à un lieu, à un espace, à un temps. Et j'ouvre une fenêtre, et 3 briques tombent, sur lesquelles il y a 3 noms que je voudrais citer, mais avec leur contenu. Le premier, c'est Jared Diamond. Le deuxième, c'est Léo Strauss. Le troisième, c'est le maître chinois qui ne porte pas de nom parce qu'il ne signe pas ses écrits et pour lequel le langage est d'une imperfection tellement grande qu'il n'y a pas grand-chose à en faire et qu'en tout cas, un autodafé aussi gigantesque qu'il soit n'a aucune importance pour la suite des choses, ce qui est tout à fait mon cas avec Internet. Tout Internet peut disparaître. Je n'ai pas de personnel computer, je suis abonné à une station internet où des mômes jouent à Warcraft. C'est très très plaisant pour moi, mais c'est pas ça n'a aucune importance. Par contre, le manuel de philosophie politique qui a été édité sous la direction de Léo Strauss et de son compagnon à la suite de son décès, et à mon avis, c'est la référence pour quelqu'un, pour n'importe qui. Et je veux citer seulement le thème, il parcourt toute la philosophie de Xénophon, puis Platon, jusqu'au XXe siècle où il n'y a que Heidegger, de façon un peu surprenante. Mais au milieu, et il y a ce à quoi il s'attache, c'est-à-dire, et je vais y revenir en un mot hein, à propos de Jared Diamond, il y a au milieu... après Thomas d'Aquin, ou avant Thomas d'Aquin, pardon, Maïmonide et Al-Farabi. Donc Maïmonide et Al-Farabi pour tout ce qui concerne les lectures exotériques et ésotériques. Mais surtout, la conclusion de l'article sur Al-Farabi et le contenu du livre, c'est le meilleur système, le système idéal, donc la démocratie, comme la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, dans lequel tout est possible, tous les objets, tous les plaisirs, toutes les créativités sont à l'œuvre, et où c'est le chaos, évidemment, l'anarchie, qui est le mauvais de la démocratie. Le mauvais de l'aristocratie, c'est l'oligarchie, le mauvais de la monarchie, c'est la tyrannie, et de toute façon, on est dans un mixte de tout cela. La campagne nous en montre bien voilà, bon, Jared Diamond. Moi, là, pour ceux qui ne connaissent pas son œuvre, le titre français qui a été donné à son dernier livre est clair, Effondrement, Collapse. Mais l'avant-dernier porte un titre qui, en anglais, est très pertinent, Guns, Germs and Steel, 13 000 ans d'histoire de l'humanité depuis la dernière glaciation. Un tiers du livre est consacré à l'agriculture, ensuite un gros morceau sur l'élevage, et enfin, l'écriture... et la technologie. Donc, merci, moi, c'est une chose que je voulais faire pour dire
oui,
que...
Il ne faut pas prendre trop de temps.
Ça y est, c'est fini. Voilà. Jared Diamond, pour moi, c'est l'ésotérisme.
Oui.
Et Internet, c'est l'exotérisme.
D'accord. Merci beaucoup. Je crois que...
Merci.
Joël Lemarec, je crois, avec quelqu'un.
Voilà, alors je voudrais qu'il me sera un chemin, puis à travers les interventions, donc j'avais une question, effectivement. Enfin, c'était, voilà, je me disais, on a là un grand récit extrêmement intégrateur, enfin, avec. Et finalement apparaît la figure de l'amateur qui est en fait une figure qui a une catégorie sociologique quand même, enfin qui est et qui du coup, enfin introduit une catégorie d'acteurs, enfin qui dans ce processus qui est la catégorie qui du coup nous sauverait un peu ou sauverait le collectif universel qui se trouverait un peu en danger. J'ai un peu eu ce sentiment. Et soudain, donc, j'ai comme ça un sentiment un peu de panique, parce qu'avec le hacker en plus, puisqu'en fait, ce qu'on observe aussi au quotidien, c'est que il y a énormément d'individus qui ne revendiquent pas la possibilité de parler singulièrement, c'est-à-dire que dans le rêve est de se constituer témoin et participant à ces collectifs, quitte à sacrifier leur propre possibilité de prendre la parole, et pour qui sortir du bois et prendre la parole, d'une certaine manière, c'est pas une conquête, mais c'est un échec au plan démocratique, enfin qui le veut. Et du coup, l'amateur se trouve investi d'une responsabilité qui devient écrasante, qui est de lutter contre des dynamiques. Enfin, donc voilà, je voulais avoir votre sentiment là-dessus, enfin ce qui est un ressenti. Hein.
Bon, d'abord, ce qui m'intéresse dans la question de l'amateur, c'est pas seulement la question de l'amateur, c'est très clairement la question de l'amateur, je vais dire tout à l'heure ce que j'entends plus précisément par là. Mais c'est d'abord le milieu technique tel qu'il favorise des positions d'amateurat. Donc, ce dont j'ai vraiment parlé en réalité, c'est la question des milieux associés et des milieux dissociés. Je pense qu'il y a des milieux techniques qui favorisent, disons, ce que j'appelais tout à l'heure des circulons de transindividuation, qui favorise donc des processus, on dirait parfois d'appropriation, moi je préfère dire de singularisation ou d'idiomatisation, et qui donc intensifie la vie symbolique, l'individuation. Et je crois qu'en ce moment, ce qu'on appelle le numérique, ce qui était le sujet de la journée, que le numérique se caractérise par le fait que c'est un milieu industriel. Très clairement, tout ce qui est numérique passe par des appareils qui sont des produits industriels, donc c'est soumis à une économie industrielle et des contraintes industrielles, et pourtant, ça modifie, je crois, mais je peux me tromper, moi je crois que ça modifie radicalement le modèle industriel. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que ce que j'appelle l'amateur, c'est pas une sous-catégorie sociologique de la population. C'est vrai que comme la manière dont j'ai présenté, ça peut se percevoir tout à fait comme ça. Mais je pense, moi, que, d'abord, le lettré est un amateur. C'est pas un professionnel. Je veux dire, si on entend par lettré celui qui se livre à une activité, ce qu'un Milner, que j'apprécie modérément par ailleurs, mais à ce qu'il a appelé le salaire de l'idéal, où il décrit, il dit par exemple pourquoi on veut être prof dans une université comme maître de conf à 2000 euros, bon, à 2500 euros, etc. Parce que on veut se livrer à sa passion. Bon, et on veut travailler dans ce qu'on aime. Bon. Et je pense que la figure de l'osium, c'est une figure originellement de l'amateur. Donc, le savoir, c'est d'abord un amateurat. Pour moi, ça, c'est absolument fondamental. Après, il se trouve que, historiquement, cet amateurat va d'abord se décomposer, parce qu'il y a les technologies de pouvoir, Foucault, par exemple, décrit des choses comme ça, qui vont progressivement chercher à transformer cet amateurat en une fonctionnalité sociale et qui vont tenter d'en faire un dispositif de la machinerie, une fonction, quoi. Hein. Bon, et donc en permanence, cet osium négocie toujours avec le négocium, si je puis dire. Hein. Ce mot négocier veut dire quelque chose quand même de très très précis. Il vient d'osium. Bon. Enfin, aujourd'hui, on voit. Bon, j'ai pas voulu du tout parler de ça, c'était pas le sujet, mais enfin, j'ai beaucoup travaillé depuis quelques années avec des gens du marketing, avec des, sur le malaise dans la consommation, sur tous ces discours de, qui sont des discours extrêmement paradoxaux, parce qu'on le sait très bien, les gens qui dénoncent la consommation sont les hyperconsommateurs, sont les plus grands consommateurs, etc. Mais il se trouve qu'il y a dans le modèle de la consommation quelque chose dont je crois qu'il souffre en ce moment, et pas simplement parce que grâce à Diamond et à d'autres, d'ailleurs, on peut identifier des processus de limitation des possibilités de développement. Mais c'est parce que ces modèles produisent ce que j'appelle des courts-circuits dans la transindividuation, donc des phénomènes de désindividuation, de ce qu'Simondon a appelé de la désindividuation. Et ça, je crois que c'est un élément fondamental qui se combine avec les transformations du milieu technique qu'est le milieu numérique, et qui fait qu'on voit apparaître partout soit des gens qui se revendiquent d'un amateurat explicitement, soit des gens qui ont des pratiques dont on peut dire de l'extérieur, finalement, sont des pratiques d'amateurat. Maintenant, l'amateurat ici, c'est pas le peintre du dimanche, c'est pas le musicien amateur simplement, c'est beaucoup plus large que ça. Cette question de l'amateur, il faut, si on veut y travailler sérieusement, il faut en faire une histoire. C'est une histoire très très complexe, qui passe en particulier par une querelle très importante qui a eu lieu au XVIIIe siècle, entre en particulier le baron de Caylus et Denis Diderot, parce que les amateurs, depuis le XVIIe siècle, et c'est lié d'ailleurs à l'Académie, à la Bibliothèque nationale, enfin, à la Bibliothèque royale, etc., c'était des gens, il y a tout un dispositif du pouvoir monarchique qui s'est mis en place sur l'intellect et la vie symbolique, et à un moment donné, le roi de France a désigné, a créé une académie de peinture, et dans cette académie, il dit, il y aura autour de moi ou de mon représentant, d'un côté les gens de métier, de l'autre les amateurs. Et les amateurs étaient les nobles qui n'avaient pas le droit de travailler, et qui donc ne pouvaient pas être des gens de métier, mais qui par contre avaient le droit, et non seulement le droit, mais le devoir de juger et d'énoncer le goût de la monarchie. Et ces gens-là, d'ailleurs il y en a un qui est très très connu, c'est Roger de Pile, bien entendu, mais ils ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du jugement esthétique, et d'un seul coup, un Denis Diderot, qui était un roturier, est arrivé en disant, mais vous êtes des représentants de la noblesse, vous prétendez que parce que vous avez le sang noble, vous avez le droit de juger, alors vous ne connaissez rien du tout, moi je suis un lettré, un homme de lettres. J'ai un appareil critique, je ne vais pas parler de l'empiricité qui est la vôtre, je vais juger, je vais théoriser, je vais créer une esthétique. Il écrit les salons, etc. Et il a liquidé la figure de l'amateur, Diderot, dans l'histoire des Lumières. Et je pense que cette liquidation a été tas d'effets sur lesquels il faut revenir aujourd'hui. L'amateurat, c'est un concept qui reste extrêmement vague aujourd'hui, ça je vous l'accorde absolument, hein. Si j'avais eu le temps aussi, je vous aurais parlé de tout ce que ça a à voir avec l'économie de la sublimation. Et j'aurais posé que le savoir, c'est avant tout de la sublimation. Voilà. Mais ce sur quoi je voudrais insister, pour m'arrêter là-dessus, c'est dire que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'articuler cette figure-là, qui est une très longue histoire, qui remonte à Pétrone, avec un milieu technique. Et que c'est une question organologique. Comment un amateur peut se constituer, c'est une question organologique. C'est pas une question simplement de psychologie ou de disposition individuelle.
Je crois que Francis.
Visiblement, j'incarne un peu la bibliothèque en fait, mais c'est bien de manière dynamique. Justement, je me permets de signaler les travaux d'un sociologue qui a essayé de reconstruire la figure de l'amateur et qui l'a mis en œuvre, Antoine Aignon.
Bien sûr.
Et du coup, c'est lire son travail. Par opposition beaucoup, alors plus que par composition avec la sociologie de Bourdieu, qui justement reprend ce partage des Lumières de manière très nette. Il y a la noblesse, en gros, le jugement de goût, ça relève évidemment de ça, et puis il y a celui qui apprend laborieusement, comme l'autodidacte de Sartre, hein, qui était le fantôme qui hantait Bourdieu d'ailleurs énormément, c'est-à-dire le problème de celui qui se hisse par la force de ses apprentissages et qui garde toujours la trace, et donc qui n'est jamais noble, etc. Donc il y avait cette tension. Et Antoine Aignon, donc ça serait bien de faire un débat à Beaubourg avec son travail pour voir comment il voit justement, parce que ce qu'il a introduit, c'est cette idée de médiation, et on retrouve de Certeau, on retrouve l'inventivité, on retrouve des concepts qu'on avait développés nous en sociologie, qui ont d'ailleurs pas mal été utilisés à Compiègne par Boulier, etc., sur la prise, c'est-à-dire comment prendre prise ou prendre part, comme dirait Rancière, dans des processus où tout est retiré apparemment. Donc c'est bien toujours la même problématique. Et donc ce serait intéressant de voir comment lui voit les torsions qu'on peut faire subir à sa figure de l'amateur, qui est quand même très encore dans la musique, dans les arts, et je pense qu'il l'étendrait quand même plus difficilement que vous ne le faites.
C'est évident. Moi, j'ai eu des contacts avec Aignon, hein, bien sûr, sur cette question.
Sur la bibliothèque.
Notamment à l'IRCAM. Et c'est évidemment une contribution très importante, Aignon.